Bon, en tout cas, merci beaucoup, Lia.
Oui.
C'était super bien. On est tous en voie là. C'est bien. Si vous voulez reprendre à boire, à grignoter, donc si vous voulez réagir. J'ai adoré la phrase de Siméon, là, il y a de l'altérité dans l'air. Je trouve que ça parle tellement bien de ce dont on parle souvent, de cette idée de Merleau-Ponty, de la chair du monde, de penser notre existence et aussi de penser le soin comme si on faisait partie d'une chair, comme dit Merleau-Ponty, comme si on est un des organes d'une chair générale qui est la chair du monde. Et voilà, chercher l'altérité dans l'air, et comment on parle de cette altérité dans l'air et comment on s'ouvre à ça. Et pour moi, c'est vraiment ça la poésie, c'est expliciter cette ouverture à l'être et arriver à parler de cet être qui est dans le vent et dans l'air. On discutait ça à midi avec Tatiana sur une attitude de méditation dans la nature, et je pense que tout ça, voilà, pour moi c'est ça la poésie, c'est cette langue qui va permettre d'ouvrir le champ sur l'altérité, sur l'être.
Et sur le monde finalement.
Et sur le monde. Sur notre monde.
Oui.
La poésie zen par exemple, qui est un rapport au miroir. Et qui fonctionne après des années de travail plan par plan, durée par durée en méditation, où on dépasse progressivement les obstacles, progressivement, petit à petit, plan par plan. Et un jour, avec un bruit de cailloux sur un bambou, ou un rapport comme ça, d'un coup, donne la totalité de la poésie, de la connaissance, la totalité de la réalisation. Et en même temps, la chair, elle est en soi. C'est-à-dire, l'alter ego, on l'entend en soi, et il est habité. Donc, partir de là, il est habité en soi. Et en même temps, le monde interne, c'est le monde externe. Et en même temps, donc, quand on va en soi, on se rend compte que l'autre y est présent. C'est comme Nerval qui était visité par sa muse. Et qui allait à l'hôpital psychiatrique parce qu'il était seul dans sa réalité psychique, et que le monde n'était pas à la hauteur de sa pensée. Donc il allait à l'hôpital psychiatrique pour se faire aider. Et il était visité par sa muse, il a fini pendu. Donc également, voilà un rapport à la poésie qui est un rapport qui est dangereux parce qu'on peut rencontrer en soi l'ami, l'ennemi. Ça dépend à quel niveau on se situe. Et ça peut être un rapport aussi rétrogradé, par exemple, au niveau de l'essence, une sorte de, comment dire, de dérèglement d'essence, comme à l'époque de Rimbaud et Verlaine. Mais quelque part, pour arriver à ce qui est caché dans la réalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre le chemin de tout le monde, mais être obligé de passer par le chemin détourné. C'est un peu le rapport à Lacan, quoi. Quand on va voir Lacan, on passe pas par la porte, on passe par la fenêtre, c'est mieux parce que vu la pensée qu'il a, si on veut rester sur l'analyse, il vaut mieux avoir des rapports détournés. Mais la poésie, c'est un rapport également à canal, parce que il y a un moment où on peut faire de la poésie, on peut pas. Il y a un moment où, quand l'inspiration vient, c'est un rapport qui est quasi magique, parce que c'est pratiquement de l'écriture automatique, parce que le poème se fait tout seul. Donc il y a un moment où il est écrit, il se fait tout seul. Il est pratiquement dicté, quoi. Donc, quelque part, alors par le moi, le sur-moi, le ça, qui se pose, mais ou par une entité supérieure, qui se pose, c'est un rapport. Mais il semblerait qu'on soit un révélateur d'une réalité qui se révèle en soi. Voilà.
Ça me fait écho à ce que vous avez dit sur l'immeuble. Enfin, sur le locataire de l'immeuble, sur ça. Et puis avec tous ces, ces recoins,
c'est. C'est comme Pérec qui écrit la lutte contre l'emploi, qui crée un immeuble, des êtres qui ont une vie. Mais ça peut être très structuré également au niveau de la pensée, c'est-à-dire ça peut être un art structuré. Par exemple, dans le travail de Pérec, il y a des lettres, des W et des Y qui coupent comme ça en ligne, des géométries dans le. Des géométries dans, le, dans, le, dans, dans l'écrit, des rapports géométriques de dessin, de graphisme. Et à partir de là, c'est un livre qui définit voilà, quelque part. Voilà, mais en même temps, est-ce que le rapport à la réalité, c'est un rapport au surmental ? C'est-à-dire au surmental, c'est-à-dire une conscience de soi qui existe en l'autre et l'autre. À une autonomie et se révèle comme une sorte d'idéation de soi, donc de révélation de soi. Donc, on a ça.
Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut réagir?
Moi, je voulais juste partager que j'étais très touchée justement par cette image de l'immeuble. Nous sommes des immeubles et. Je ne sais pas trop de quelle manière, mais ça me touche avec beaucoup d'images et dans cette découverte de l'immeuble que nous sommes, c'est un peu comme si ça coupait certaines frontières et ouvrait beaucoup d'espaces de relations avec le temps, l'espace, les autres êtres vivants. Voilà, quelque chose un peu mélangé. Hein, voilà, je trouvais ça vraiment. Merci pour cette découverte. Entre autres, il y a plein de choses. Voilà, là, ce qui reste, c'est ça pour l'instant. Beaucoup, ça fait bouger quelque chose en moi, je sens, cette image de l'immeuble.
Cette image de l'immeuble,
ouais.
Tu voudrais que je t'envoie le texte, peut-être?
Ah ouais, je veux bien, enfin, si. Okay. Ouais, ouais, avec plaisir.
Là, c'est...
Donc après, c'est vrai que le thème de la soirée, là, c'était le, pourquoi le fil rouge de la poésie, voilà, en sachant que notre travail, c'est travailler sur le soin. Est-ce que le lien soin-poésie, ça... Est-ce que, je sais pas, bah, après ce que Lia a dit, est-ce que vous voyez le, une connexion, ça reste obscur ou,
Après, moi, j'entends, du coup, dans la posture du poète, je reconnais quand même beaucoup la posture du psychanalyste, du coup, qui est en creux, qui est à l'écoute, qui est dans une rêverie, voilà. Et je pensais, du coup, je disais par rapport au cancéro, voilà, à l'hôpital où il y a peu de poésie, il y a peu de place, en fait, à cette question-là. Et c'est le pendu, en fait, le patient qui se pend. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui ont envie de mourir parce qu'on n'entend pas suffisamment quelque chose qui est du côté de... voilà, de la subjectivité, de ce qu'ils ressentent vraiment, de ce qu'ils voudraient pouvoir dire qu'il y a autre chose qu'une technicité, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai pas mal là. Et on a des patients du coup qui veulent en mourir, alors qu'ils sont guéris du cancer. Mais après ça, il y a une forme de, je trouve, de meurtre, bon, je dis meurtre psychique, mais c'est un meurtre de la poésie, je sais pas comment dire, il y a quelque chose... une mise à mort quand on n'entend pas ce niveau-là.
Oui, tu veux dire, comme vous êtes dans la sphère médicale, il y a beaucoup cet aspect de technicité,
ouais,
qui est
mis en avant. De normes, voilà, c'est mal ça. Là et pas là.
C'est ça. Et puis voilà ce que c'est que la douleur, voilà ce que c'est que le malade, hein. Voilà ce que c'est que la maladie. Enfin, peut-être, c'est un peu ce que j'entends. Hein, et justement, la police, ça va remettre de l'épaisseur dans tout ça. Enfin, c'est de la polysémie, justement, où tout à coup, on ne sait plus rien. Et donc, on va aller vers, cette écoute en profondeur, en fait.
Mais c'est angoissant c'est de l'écouter pour l'ensemble des soignants, d'un système, en fait. Quelque chose d'angoissant à écouter.
Dans la tarologie, il y a une carte qui s'appelle le pendu.
Dans la
tarologie.
Oui, effectivement, c'est la 12.
Oui, c'est la 12. C'est la dame qui est pendue, les pieds en l'air, et qui sourit. qui est très heureux et qui a les mains attachées dans le dos comme ça. Et il est sur deux bois qui sont tranchés, on dirait que l'arbre a du sang, comme ça, c'est un rapport sanguin. Et il a les pieds en l'air comme ça, et il a la tête en bas. Et c'est donc quelque part, cette image, c'est une image imposée. Et donc le pendu, quand on le tire dans la tarologie, ça veut dire qu'il y a un rapport à la destinée, à la réalité interne, psychique, alors qui est un rapport, bien sûr, à l'inconscient, sur moi, au ça, et d'une personne qui pour l'instant, ne peut pas résoudre sa problématique intérieure, quelque part. Mais c'est imposé parce que l'image est imposée, et dont elle est imposée, la personne est obligée de subir un joug. En psychiatrie, par exemple, on subit un joug, par un moment, par un moment.
Belle soirée.
C'est gay.
Mais oui, bah, du coup, qu'est-ce que vous avez entendu, vous ou... Comment vous pensez le soin poétique, en fait qu'est-ce que ce serait pour vous que pouvoir soigner par cette posture-là, par cette posture poétique?
Je sais pas trop, c'est pour ça que je suis venue.
Oui, c'est pas
mais,
facile.
Mais par contre, moi j'ai eu une fois, c'est quand on est psychanalyste, on passe son temps chez le psychanalyste, hein, bien sûr. Et j'ai eu une fois une rencontre où je me suis dit... Et c'est vraiment, j'ai eu l'impression que ça, c'était une écoute poétique, ça rendait la vie poétique, l'écoute, ce qu'on m'envoyait. Et j'ai trouvé que c'était tellement plus aidant, des choses plus cartésiennes, ou plus. C'était devenu beau, ça rendait la vie belle, enfin je sais pas comment dire. Ça a ouvert, on dit comme nous, c'est chakra, ou ça, ce que vous voulez, mais. Je sais pas moi comment j'écoute, je pense pas que je sois très poète. Mais je pense que comme si on apportait au patient quelque chose du côté d'autre chose que de la technicité, d'une normativité au niveau de où ils doivent avoir mal, comment ils doivent réagir, à quel moment ils doivent plus avoir mal, puis à quel moment ils doivent plus être angoissés, et qu'il y avait une forme d'ouverture avec de la créativité, ça passe par les médiations, je trouve que c'est pas la médiation, enfin. Ben c'est par plein de choses, hein, mais par de l'art, par de la poésie, par de l'écriture. Du coup, je pense qu'il y aurait vraiment une ouverture, une sortie un peu de l'angoisse et puis de la détresse. Ouais.
Moi, je pense qu'il y a des groupes. Pour ton intervention, j'ai été, j'ai eu la chance d'être soigné par des gens comme quand ça, il y a quelques années. Et c'est la chose qui était le plus horrible, c'était d'expliquer à des médecins qui sont sympathiques, hein, qui ont mais qu'on est d'abord des mots, on est tous des sujets de mots, et c'est pour ça que j'ai manqué un tout petit peu de mots, bien que parfaitement d'accord, tu faisais un peu trop de la poésie, une posture, alors que c'est un chemin de mots, c'est trouver un chemin de mots. Un poète, c'est celui qui aide à trouver le chemin des mots qui va dans l'âme, qui va dans ce que tu veux. Et en fait, j'ai expliqué un jour, comme ça, un de ces merveilleux médecins qui était Bac+27, qu'il était très sympathique, il racontait toutes ses horreurs, parce que puis c'est la grande mode en médecine, ça va parfois, mais de se défausser de tout le monde, de sa responsabilité, en disant il faut que vous sachiez, monsieur, que vous avez, là, c'est très grave, parce que jamais il vous arrive un truc. Et en fait, j'ai expliqué à ce type sympathique qu'il ferait bien de réapprendre d'abord à son métier avec des poètes, quoi. Et essayer de parler une langue humaine, parce que les hommes, c'est des mots. C'est pas un mal, c'est pas un abcès, c'est pas un machin. C'est que si je lui parle pas bien, au monsieur ou à la dame qui est en face de moi, j'ai aucune chance de la sauver. Aucune. Et l'autre, il était tombé presque dans les pommes. Parce que, pourtant, j'ai appris. Vous avez tous des cours, j'imagine, pour savoir comment on raconte les trucs horribles aux gens qui ont des trucs horribles. Il a presque pleuré, parce que je voulais lui dire ça, mais. Je crois que ça lui a fait du bien à la fin. Mais bon, ça fait du bien. Je n'en ai pas qu'un machin en face. Moi, j'attends une chose d'un médecin.
Moi, c'est un système, hein. C'est pas que les médecins, c'est tout un système où moi-même je suis prise dedans.
Ah, mais bien sûr, je n'ai pas que les médecins, j'ai dit, ils sont tous très sympathiques. Mais il y a un système qui fait totalement abstraction de ça, quoi. Et c'est ce que les patients ressentent le plus quand ils sont quelque part. Les impatients, même bien nommés, ils sont chez Sandra dans les salles d'attente. Et en fait, ils ressentent cette chose où d'un seul coup, il n'y a plus de mots qui font de lien avec rien du tout. Ni avec leur mal, ni avec les autres, ni avec les personnes qui les... Et qu'en fait, on a en face de nous des scanners ou des machins qui donnent des résultats, et puis voilà, c'est
tout. Mais même dans une... ça me fait penser, même dans une soirée comme celle-là, on glisse en se présentant, on présente sa case de personne, alors qu'on est censé penser, je sais pas mieux ou autre, mais en tout cas, océan, et pas bitume. On parle quand même « je suis case ». Et peut-être que déjà, ceux qui ne sont pas du tout dans cette réflexion, ils ont beaucoup de cases qui les enferment en plein endroit. Et probablement qu'on ne peut pas penser case pour les emmener ailleurs. J'ai pas de solution, mais probablement que, ouais. On ne peut pas parler que physique ou fonction, mais ailleurs. Moi, je sais que la poésie, c'est effectivement, c'est sensitif, c'est pas quelque chose... si on l'explique, c'est déjà fini. On peut pas expliquer un sentiment, en fait. On s'efforce de le faire, mais c'est peut-être un problème. Moi, c'est ma solution. Voilà, c'est me tourner... je me tournerai vers... tout ce que je peux, tout ce qu'on va pas se dire, voilà. Et tout ce qui va venir de ce qu'on va pas se dire, c'est ce que moi je ferai.
Ça revient à penser que l'homme n'est pas que des mots, mais effectivement un état, et qu'un regard soignant s'accroche à cette poésie de l'état et donne un souffle pour pouvoir permettre de... d'exister. C'est immense, effectivement, je rejoins, c'est un souffle à porter si on peut l'accrocher, si on peut accrocher du regard cette poésie qui s'éveille et qui nous éveille vers quelque chose de non pas tout organisé, mais effectivement soignant, élevant.
Plus grand que... Oui. Enfin, ça me paraît plus grand que nous. Le problème, c'est peut-être d'être trop dans une façon égo, et alors que pas vraiment que la poésie, c'est vachement plus l'esprit, déjà. Possiblement.
Je peux dire, par exemple, les concepts du vide peuvent être vus comme les rapports neurones, synapses... Alors, des rapports qui rejoignent les neurosciences, parce qu'il y a des concepts magiques dans le livre qui sont utilisés. Il y a des rapports magiques de rituels magiques qui amènent un rapport d'apparition visionnelle. Alors, cette réalité est considérée comme ayant un rapport objectif, puisqu'elle peut être codifiée au niveau logiciel Internet. Certains logiciels peuvent être codifiés parce qu'elles ont des symboles de couleurs. Elles se font appel à des forces qui sont considérées comme objectives. Et donc ces forces objectives, on fait appel à des forces, alors c'est un rapport entitaire et en même temps identitaire. Et en même temps, le soin consiste par exemple dans les névroses et les psychoses, où il y a un rapport cauchemardesque d'arriver à créer des rapports, comment dire, paradisiaques, on peut dire, qui approchent un rapport paradisiaque. Il est possible de... ce sont les Tibétains qui me l'ont appris, bon, ils appellent ça les moyens droits, c'est-à-dire que quand il y a la guerre, eux, ils font des créations magiques qui font la paix, alors ils créent le paradis en même temps. C'est construit mentalement, complètement construit. Mentalement, par la pensée, certainement. Et ces rapports, qui sont rapports à des déités, qui sont codifiés dans des noms, dans un arbre généalogique comme ça, avec ces rapports qui rejoignent les neurones, le rapport interne, les canaux subtils, les veines, le corps interne. Donc, quelque part, donc ce monde. de maison, tout ça, ce rapport-là. Oui, et donc c'est le rapport à la poésie peut être vécu, alors pour eux, dans les rapports apparitionnels, puisque ce sont des gens qui voyagent dans le rêve, dans leur rêve, dans leur propre rêve, dans leur rêve d'autrui, à volonté aussi. Ouais. Mais quelque part, alors de là que ça soit conceptualisé par de la poésie, question se pose, ça, on appelle ça les tantras, c'est-à-dire ce sont des rapports poétiques de la réalité, d'une sorte d'expression comme ça, de cette réalité-là, qui est considérée comme étant rapport à la réalité, au rêve éveillé, un concept comme une image parfaite, qu'on appelle ça le tantra, c'est une image parfaite, comme admettons, disons que la vision. Une vision, admettons, parfaite, hein, admettons une masse cinématographique ou un hologramme ou un concept parfait, admettons une image d'un jardin de roses, par exemple, admettons, mais c'est des rapports donc, qui sont considérés comme paradisiaques ou cinématographiques, puisque le monde intérieur il est considéré comme une pellicule, et il y a un tantra qui s'appelle le Vajra Cooper, où il est dit qu'on peut couper la réalité avec un diamant, le diamant de l'esprit, comme ça. C'est un tantra bouddhique. Alors, est-ce que c'est de la poésie? Peut-être, puisque c'est conceptualisé dans les tantras. Donc, ce sont des rapports littéraires. Il y a toute une série de tantras, dans tantrisme, comme ça, qui ont été faits par. Voilà, dont un livre qui est sur la dialectique du vide, qui sont magnifiques écrits. Mmh. Donc, alors, il y a. Voilà, donc.
J'aime bien cette image de bonne foi là, qui dit qu'à un moment on se rencontre au bord du vide. Enfin, je ne sais plus comment on m'a dit ça. Moi j'aime bien dans le soin cette idée de rencontre, mais on ne se rencontre pas pour échanger, pour dire voilà. On se rencontre pour être ensemble et pour se sauver ensemble finalement.
Oui. Ouais.
Et de cette qualité de rencontre là, des choses vont surgir, des choses. Enfin, il y a une ouverture et. Et moi, j'ai des rencontres qui sont conflictuelles. Alors, ce que tu décris avec les médecins, moi, je peux le vivre avec des patients, des fois, tu vois. Il m'arrive, c'est très rare, mais de demander à la patiente de ne plus venir parce que je me sens trop... Mais ce n'est pas de cette rencontre-là dont je parle bonne foi. C'est se rencontrer dans une sorte d'alliance, dans se reconnaître comme les deux organes d'un même corps et dire, bon, là, le gouffre est là et... Moi j'ai toujours cette image d'on est un peu dans la même barque quoi et je pense que la relation thérapeutique ça peut être ça. Alors c'est pas du tout la culture médicale, mais moi je sens la force thérapeutique de cette dimension là en fait de se vivre dans une rencontre qui est plus une alliance que un dialogue qui doit se faire. J'ai l'impression que tu parlais du lien, c'est ça qui m'a fait connecter à ça. J'ai l'impression que ce lien, qu'elle invite bonne foi, est un lien qui peut soigner. Qui peut soigner le malade, il vient pour ça, mais qui dans le même temps, par effet de réciprocité, on parle beaucoup, enfin moi j'aime bien cette notion de réciprocité, soigne l'autre, enfin le soignant et j'ai l'impression, moi, de jamais aussi bien soigner quelqu'un quand je reçois, quand j'ai l'impression qu'il me fait du bien, quoi. Et des fois, on rentre dans une sorte un peu d'extase dans de relations qui sont très... qui sont dans une sorte de la... dans une rencontre de cette qualité-là, et on s'aperçoit que la personne qui, des fois, va très mal, il y a une capacité à faire que ça va aller mieux, mais parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du soin aussi chez moi, quoi.
Il y a un rouage qui se met entre vous, qui est positif.
Exactement,
c'est vrai. Mm-hmm.
Et qui est propice à... Par ce duo, j'ai l'impression que ça soigne parce qu'on va s'ouvrir à autre chose, et qu'il y a un autre monde qui s'ouvre, et qu'il y a un monde qui n'est pas le monde qui fait souffrir, justement. Et que du coup, j'ai l'impression que la poésie... le soin de la poésie, c'est aussi ça, c'est cette ouverture par une alliance, par le lien à un autre monde.
Une idéation de soi en soi. C'est-à-dire quand on voit la poésie de Verlaine, il s'agit d'état de grâce. On ne peut pas écrire de cette manière si on n'a pas un état de grâce. On peut chercher à écrire, la poésie de
Verlaine. Un état de grâce.
Un état de grâce. Il y a des moments qui sont les purs états de grâce, où tout le monde n'est pas accessible à de tels états de grâce. C'est-à-dire on peut écrire comme on déblaye un chantier, on peut écrire comme sa manière, on peut écrire un tas de matériaux que l'on additionne, qui peut être très intéressant, de penser à conscience, du conscient, du moment pris, c'est comme ça qu'ils sont agglomérés. Il y a différentes formes de poésie. Par exemple, il y a des gens qui font la poésie en recopiant le bottin de téléphone. Et qui font tout ça, des supports comme ça, et qui font toute une œuvre littéraire comme ça. Il me semble que c'est tout de même également être pris dans le temps et quelque part également une certaine image de soi, idée de soi. Et si c'est un soin, c'est que c'est offert à autrui. C'est-à-dire, on ne fait jamais pour soi. Quelque part, on espère que l'autre un jour le lira. Et alors, est-ce que c'est une question de... Alors, c'est la reconnaissance de soi au père, à travers l'autre. On peut... Moi, je sais que, par exemple, quand j'écris, la question se pose de savoir... qu'est-ce qui va en rester, ce texte il va, vu que tout est impermanent, que tout se détruit dans l'univers. Alors, quelque part, on espère un inter ego, un écho supérieur, une écoute qui serait de l'ordre, alors c'est l'écho en soi, de l'âme, et puis on espère peut-être un certain accueil supérieur, quelque part, d'être reçu dans une communauté, alors une initiation de soi, idéale, finalement on n'est pas seul, finalement, hein, c'est-à-dire quand du moment où on fait de la poésie, on n'est pas seul, on est habité par l'univers que l'on décrit. Quelque part, il y a des moments de poésie qui sont du sourire et qui sont un pur sourire. On a l'impression que. Oui, bon.
Mais c'est clair. La notion d'habiter, je pense qu'elle est centrale. Effectivement, on va passer la parole. C'est à bâbord qu'on gueule.
Pour rebondir sur ce que t'as partagé aussi de ce qui peut se passer entre toi et des patients et aussi de ce que tu disais aussi dans les échanges de ce qui se fait ou ce qui se fait pas, c'est... Je me demande si c'est pas ton lit, enfin, je vais enfoncer des portes ouvertes, attention, je vais rien révolutionner. Mais dans l'histoire de posture du soignant comme du soigné, tout à l'heure quand t'as commencé la séance, justement, t'as parlé de l'ethnocafé, le fait que c'était un lieu de recherche et que du coup c'est quelque chose qui n'est pas figé. Et moi je me dis dans la posture de quelqu'un qui vient se faire soigner comme de la personne qui peut aller la soigner, je me demande s'il a une voie en tout cas ou une solution, justement c'est de ne pas chercher de solution. Parce que si moi j'arrive avec cette demande là et ce qu'on attend le plus souvent effectivement d'un soignant, c'est je vais pas bien quelque part, aidez-moi, faites quelque chose. Et le soignant en face a sa grille de lecture et son cadre pour dire bon ben du coup on va procéder par là, par là, par là. Et enfin, ça me fait penser à ce que tu as dit de là, j'ai bien noté le nom. C'est prosaïque. Mais le fait d'être tout de suite dans une posture de chercher une solution. Mais justement dans une posture où il faut chercher l'efficacité et du coup sortir son placard et ses tiroirs de où est-ce que je vais aller, mais quand on est déjà en train de rechercher ça, on n'est pas dans la rencontre ni de l'un ni de l'autre et quelque part ça coupe pas évident de s'exprimer, mais ça coupe cette rencontre parce que l'élan ça coupe le fait de rechercher directement ensemble et à deux. C'est pas j'arrive directement avec une solution, tu n'arrives pas avec ta demande, mais essayer de chercher ensemble, et c'est peut-être par ça justement que vont s'échapper des choses qui sont nouvelles,
peut-être justement poétique, parce que ça basculera dans un autre état d'être et surtout dans une autre écoute. Et dans la, si on reste vraiment que dans le soin, moi j'ai l'impression que c'est cette notion de rencontre et d'écoute entre deux personnes qui est pas évident à amener. Quand j'entends d'un côté des esthéticiens qui disent mais voyons, bien sûr il faut se vacciner, et puis de l'autre côté on peut mettre des gens qui sont anti-vax et complotistes, et de dire ouais, mais en fait si là-dedans je vois des personnes qui se tournent justement vers des médecines alternatives ou autres, le plus souvent tout ce que j'entends c'est parce que il y a du temps d'écoute en fait, parce qu'on peut prendre du temps pour ça, et je sais que le corps médical actuellement c'est tellement pas assez tourné ou formé vers ça, ou parce que c'est pas assez efficace, mais j'ai un peu perdu la fin de la phrase. Je voulais rebondir sur
c'est peut-être tout ouais, la certitude, c'est ce que tu disais je crois à un moment donné. C'est terrible d'être dans la certitude, mais on peut tout dire. Hein. On a savoir que c'est comme ça, s'il ressent ça, ça va se passer comme ça, il faut réagir comme ça. Ouais. Là, ça y est, c'est le drame après. La dégringolade.
Oui.
C'est vrai aussi qu'à la décharge des médecins par rapport à ce que j'étais un peu sévère tout à l'heure. Quand on va voir un médecin, quand on a un cancer, quand on a un truc comme ça, je sais juste qu'on a une crève, c'est pas très grave. Mais il y a une angoisse énorme du côté du patient, une charge émotive monstrueuse, et que si le médecin commence à délirer, à dire je t'entends, moi je t'écoute, on se met sur une barre tous les deux, évidemment c'est pas ce qu'on attend en premier. Après on peut attendre aussi ça, mais c'est pas ce qu'on veut.
Vas-y. Bah, en même temps, moi, dans mon expérience, le moment où je me suis sentie le mieux accompagnée, c'est quand j'ai été face à un médecin, enfin, une femme médecin, qui osait partager sa fragilité, qui osait dire je ne sais pas. Et pour moi, c'est vraiment dans cette approche du soin, approche poétique du soin, j'ai l'impression qu'il faut. Ça peut être un point de départ de revenir à je ne sais pas, et on est ensemble au bord du gouffre. Et je ne sais pas, et voilà, on ne sait pas trop où on va. Et moi, ça a été le. Je lui demandais pas de faire quelque chose en fait, mais juste d'être là à côté de moi au bord du gouffre. Et pour moi, ça c'est très soignant. Ça rejoint un peu aussi ce que tu disais, je crois.
Oui, du coup, ça te fait lâcher aussi une posture de. Vous avez tous les pouvoirs et
exactement.
Ça te rend actrice aussi.
Exactement. Ça permet du coup de te sentir à la fois entendue et simplement de te relier aussi à cette personne qui reste humaine, même si elle est médecin.
Oui, du coup dans ce changement de posture, pardon, je suis juste là, tu sais, je sais, ça fait quatre phrases que tu dis oui. c'est juste pour pas complètement perdre le fil, après j'ai terminé. Mais dans ce que tu exprimes et ce que tu dis des gens aussi, des moments où tu as l'impression d'avoir. Était toi aussi soigné dans ta relation au patient, et l'angoisse horrible qu'amène l'incertitude, ou alors peut-être justement de dire de ne pas savoir. Tout à l'heure, tu as dit une phrase, je l'ai notée parce que je me suis dit, tu as cité plein de super. Mais toi aussi, tu as écrit des super trucs. Envoie tes textes parce que t'étais dense, tu as dit beaucoup de choses, j'ai pas pu tout noter. Mais tu as dit, on n'interroge jamais autant la vie que quand elle est inquiète.
J'ai l'impression.
Et c'est vrai que ces moments de doute, d'angoisse en soi, on peut aller très très loin en soi. Effectivement, on a le fou de notre immeuble qui est en train de regarder un peu dans toutes les pièces. Et ça peut être très angoissant d'aller au fond de soi, mais c'est effectivement dans ces moments-là où il y a peut-être une transcendance qui se fait, où il y a autre chose qui peut aussi émerger parce que change aussi un peu de schéma à ces moments-là. Mais je me dis qu'en tant que soignant, pour aller accepter ça, d'avoir en fait une personne qui arrive avec peut-être aussi tous ses doutes et ses angoisses, et vouloir franchir ce cap de waouh, aussi bien, si j'ouvre cette porte-là, en fait, je vais sombrer avec cette personne, c'est aussi horrible et angoissant.
Faut pas tout se couler, quoi.
Voilà, non, mais c'est ça. Mais est-ce que c'est pas parce qu'on... Enfin, moi, ça me fait interroger la peur même de cette angoisse-là. Pourquoi on a aussi peur d'y aller? Parce que c'est un état qu'on pratique certainement moins et qu'on méconnaît beaucoup. Du coup, on a peur de s'y noyer aussi. C'est peut-être parce qu'il est moins connu et moins pratiqué, quoi. Mais que ça demande peut-être une bonne dose d'inconscience et de courage de le faire. Et je comprends qu'on ne le fasse pas aussi, parce qu'on peut avoir des expériences où soi-même, on s'est perdu, où on s'est fait entraîner par d'autres personnes qui n'avaient pas bien elles-mêmes, et que c'est pas évident de savoir où placer cette limite là aussi.
Voilà. Yeah, tu voulais peut-être
oui, pour rebondir un peu sur tout ça, la première fois que tu as parlé, moi ça m'a vraiment fait l'image de je suis là, tu es en face, enfin je suis en tant que patient, tu es en face en tant que soignant, et entre nous il y a quoi? Il y a le protocole. Et en fait, le protocole, il va passer au premier plan. En fait, ça va être comme une espèce de vitre opaque entre nous. Et si moi, en tant que patient, j'essaie, s'il te plaît, donne-moi une chose que du protocole. Et là, enfin, tu vois, je vais me prendre cette vitre-là. Et il y a vraiment... voilà. Et pour moi, en fait, l'idée de la poésie, ça va être qu'à un moment, entre les gens, il va y avoir rien. Tu vois, on va enlever cette vitre-là, on va enlever ce protocole. Le protocole va devenir... secondaire, quelque part, il va avoir lieu après la rencontre, mais dans un second temps. Mais avant, on va se retrouver là, l'un en face de l'autre, effectivement, au bord de ce gouffre, de ce vide, de nos fragilités d'être aussi, mais aussi de nos forces d'être, et cette création d'un lieu commun, en fait. Et pour ça, effectivement, pour moi, c'est là où la rencontre poétique, dans le soin, dans la présence, va pouvoir... émerger, et ça implique effectivement de pouvoir se laisser toucher, ça implique de se laisser impliquer, voilà, en temps, voilà, réhumaniser le soin, je vois pas comment ça peut être possible sans être là dans une posture d'être avec, et être avec, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça veut dire j'existe en face de toi, et en fait là, nos deux existences vont à un moment donné se rencontrer, se mêler, se faire écho à des endroits aussi, etc. Donc voilà. Mais ouais, c'est vrai que enlever la pensée du protocole, en fait, ça libère tout l'espace. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas sa place, hein. Je dis pas ça. Mais s'il peut arriver dans un temps second, après, c'est ça.
Ça fait, suppose c'est un certain abandon, finalement.
Et tout à fait. Ouais. Tout à fait.
Ouais. C'est l'inverse du procédé dans lequel on est. Dirigé par la peur en lieu général, c'est oh vite je me mets dans, encore une fois, dans ma case, et c'est bon, c'est pas moi qui, on m'a dit que j'avais cette case, donc en fait tout va bien, je veux dire, je respecte mon rôle, je fais ce que j'ai à faire, je prends pas trop de risques, mon humanité et la tienne n'est pas mis en jeu, parce que je tiens mon rôle, en fait, il est protecteur, c'est sûr, on nous a protégés, mais trop, du coup, on a accepté d'être trop protégés, probablement. Mais pour moi, c'est la même interrogation que dans l'éducation de nos enfants. Quand bien même ça va faire du mal, il faut prendre cette posture. Quand bien même l'enfant souffre, il faut prendre cette posture. Et mes postures, je suis touché par le fait que tu sois touché. Pas à posture, je suis le papa et t'inquiète, je tiens la maison. Elle ne va pas brûler. Si, elle peut brûler, mais en l'occurrence, regarde, on peut sauter par cette fenêtre. C'est pas grave, puis on fera une autre maison. Moi. Ça prendra du temps, mais c'est possible. Je crois qu'il y a un truc aussi... Je suis d'accord que la fragilité est évidente. Elle est impérative. C'est ce qui nous manque le plus, probablement. Enfin, ça fait partie des choses qui nous manquent beaucoup, entre nous. Ah ouais, c'est...
Il y a une grande force, en fait, dans cette fragilité.
Une immense force. Non, elle est puissante. Elle n'est pas forte, celle-là, je pense. Enfin, moi, c'est ce que je penserais. C'est qu'elle n'a pas de fin, celle-là. Parce qu'elle est assumée. Et quand c'est assumé, c'est fini. C'est tout vert. La force, elle fait... Voilà. Bah, il faut pleurer avec ses patients, c'est ça.
Oh, ça m'arrive, hein, ça m'arrive.
On se fait des câlins.
J'aimerais juste
donner la parole à Socrate qui est là-haut sur la balançoire. C'est un personnage qu'on aime bien. Elle était au café. Et juste, donc Socrate, il passait sa vie dans Athènes à agacer les gens parce qu'à leur faire comprendre qu'ils ne savaient pas les choses en fait. Et en fait, il dit en fait que combien c'est important de comprendre qu'on ne sait pas. Et en fait, il parlait souvent des médecins, Socrate, et il dit, il est en général assez critique sur les médecins, mais il dit, le médecin qui comprend qu'il ne sait pas, en comprenant qu'il ne sait pas, il retrouve l'efficacité, ou il trouve l'efficacité. Il appelait l'efficacité heureuse, en fait. Donc tout ça pour dire que l'idée, au final, ça reste quand même d'être dans une certaine efficacité, enfin au sens où de soulager, soigner. Et je trouve ça, enfin voilà.
Ouais, ça lui a coûté la vie. Je veux dire des vérités aux gens, bien sûr. Ça, c'est une des réalités. Par exemple, comment vous dire, dans le champ psychiatrique, par exemple, d'être interné, vous savez, par exemple, admettons, c'est une grande pénalité, vous savez, c'est une question, donc c'est un rapport de pénalité au niveau judiciaire, politique, hein, bon. Quelque part, voilà, le rapport également hallucinatoire entre l'hierarchie du bien et du mal, par exemple, on peut être visité par un neurose, un psychose, par des états. Est-ce qu'ils ont une réalité réelle, irréelle ? La question se pose. Est-ce qu'une réalité qui se présente est réelle, irréelle, mais est-ce que derrière l'irréalité, il n'y aurait pas un hiérarque qui souhaite. Le mal, vous voyez, la question se pose, tout ce qu'on voit hallucinatoire comme ça.
Il y a beaucoup de travaux sur, le chamanisme, enfin, les sociétés chamaniques et la capacité d'une personne à voyager. Bon, il y a Corinne Sombrun qui fait des études sur le cerveau. Il y a beaucoup de points communs entre ce qu'on appelle nous la schizophrénie en France et ce que dans d'autres cultures on va appeler le chaman en fait. Mais sur cette capacité à voir, et nous on met des schizophrènes à l'hôpital.
Il m'est arrivé d'avoir des pilules qui étaient données en quantité, donc imposées par médecin, et de rentrer en hallucination. Donc c'est l'horreur, vous voyez, vous êtes là, il faut en sortir. Et vous restez des heures en perception, donc par rapport au cœur, dans une perception directe comme ça. Et il y a une sorte de présence, mais c'est une présence très négative, une sorte de rapport acre comme ça, qui est pratiquement infernal. Vous avez l'impression d'avoir une présence. Alors la question se pose, quelle est cette présence ? Alors quelque part en méditation, il y a les amis intérieurs, les ennemis intérieurs, et on peut les définir. On se rend compte que par exemple dans la Kabbale, il y a des ordres de négation des hiérarches qui portent un nom. Alors c'est ce rapport-là, est-ce qu'il est, d'après certains, il y a un rapport objectif au bien, au mal. Alors là, on rejoint la guerre des étoiles, hein, le rapport intergalactique. mais c'est la question. On peut voir en psychiatrie. Est-ce que la question se pose avant d'accepter d'avoir le médecin intérieur? Nous savons qu'on est hospitalisé pour notre bien et qu'il y a une présence qui veut notre bien et que si on y arrive, c'est que pour forcément avoir une sortie où ça sera bien, il y a un rapport hallucinatoire, des gens qui, en cours de chemin, deviennent fous, c'est-à-dire ne passent de côté du miroir et ne sont plus dans. Moi j'ai vu des gens passer de l'autre côté, avoir des rapports irrationnels à la réalité, dire des choses apparemment n'importe quoi, mais qui avaient une réalité pour eux. Donc, la question de tout ce qui est psychose, tout ça, quel est le rapport de réalité dans la psychose ? À qui la personne parle ? Vraiment à personne, vraiment ? Non, il y a un rapport objectif.
Si on lit avec la poésie, est-ce que le. Ce qu'un patient peut raconter dans son contexte de psychose, est-ce que on peut lier ça au surgissement de.
Le rapport à la poésie, c'est codifié, c'est cartographié des rapports objectifs à la réalité. C'est-à-dire que du moment où vous avez écrit un poème, vous avez une carte d'identité sociale. Parce que quand vous êtes hospitalisé, vous ne représentez plus rien. Vous vous êtes considéré comme fou. Donc vous pouvez vous perdre. Si vous vous perdez, vous n'en sortez pas, parce que l'hôpital reste fermé. En même temps, est-ce qu'il y a quelque part. En même temps, le psychiatre, lui, il est dans un rapport d'introspection, et c'est un psychiatre. Quelque part, le concept de Dieu en psychiatrie, dont les psychiatres se méfient beaucoup, le concept de Dieu où il y a beaucoup de déviance, par exemple, le paranoïaque se prend pour Dieu, un droit de vie de mort sur autrui, tout ce rapport de Dieu, même au niveau de l'islam, les patois, par exemple, la personne a un pouvoir, les patois de vie de mort, c'est un rapport psychique interne qui est défectueux, simplement, qui est analytique. Mais le rapport de la poésie, c'est pas. C'est-à-dire, finalement, il faut quand même qu'à un moment donné, un rapport à la beauté qui se révèle comme la beauté, le paysage, l'univers se révèle comme un ami qui se révèle. Le paysage, l'univers se met à dialoguer avec une personne et son meilleur ami, et peut-être qu'il y a une sorte de présence comme ça dans la métamorphose, dans la présence des paysages, où finalement il y a peut-être la personne. Il faut beaucoup d'amour hein, pour résoudre une psychose ou une névrose. Le rapport à la sanatoire. S'il n'y a pas beaucoup d'amour, s'il n'y a pas, par exemple, nous, au Petit Caillou, il y a constamment une présence d'amour qui est constamment une veille, qui se fait à tout moment. Il y a toujours la nourriture, toujours une présence. La porte est ouverte, voilà quoi. À nous, le travail, quoi. Hein. Mais à partir de là, la psychose, c'est le rapport au mal, hein, au mal en soi. C'est-à-dire, on est en face de ce posture, on est visité par l'horreur. Donc, c'est pour ça que c'est absolument inadmissible. C'est pour ça que le médecin ne gère pas ça. Parce que, par contre, que l'univers se révèle comme amical, comme un rapport de métamorphose, un rapport, l'univers devient amical, l'univers se met à parler, alors il y a un rapport objectif. De présence aimante, mais c'est peut-être le rapport interne hein, que l'on voit, que l'on projette à l'extérieur. On est redevenu ami avec soi-même, on est médecin de soi-même, et petit à petit, on fait tous les plans nécessaires à la guérison. Au lieu d'avoir des pensées d'autodestruction, par exemple, par la culpabilité au père, ou un rapport de cette façon-là, de se détruire, on devient son plus grand ami, et on décide un jour, quand on a été hospitalisé au fur et à mesure des années, de prendre la porte de sortie, d'arriver au bonheur et de redevenir à la simplicité du bien-être. Donc, mais ça demande un grand travail. Mmh.
Merci bien pour ces manières.
J'ai une question. Le droit d'en finir avec soi-même, c'était de Baudelaire, c'est ça?
C'est pas la citation que j'ai dit. Oui. C'était pas en finir soi, c'est le droit de se contredire,
ouais.
Et le droit de partir.
Ah, de partir, oui. Mais de partir de
ah, quoi, de partir, c'est une bonne question. J'avais l'impression que lui, il disait plutôt le droit de partir d'une pièce, tu vois. Okay. Mais en fait, pareil, c'est polysémique,
bah, oui.
On est là-dedans, donc en fait, ça peut être aussi, je pense, le droit d'en finir. Mm-hmm. Alors, je pense que tu peux prendre ça dans tous les termes, ouais, tout sens possible.
Ça.
Ouais. Oui. Et c'était de Baudelaire, du coup.
Mmh. Et Bernadette, tu n'avais pas commencé à une phrase tout à l'heure?
J'ai oublié. Ah si, je voulais dire effectivement que moi-même, quand je peins, je ne sais pas ce que je vais faire. Mmh. C'est en faisant que je découvre ce que je vais faire. Mmh. Donc il y a une certaine ignorance hein, dans la création aussi. Et c'est pour ça que c'est passionnant de créer, c'est parce qu'on découvre quelque chose qu'on ne voyait pas. Enfin, que c'est comme ça que je le ressens.
Je pense que dans l'accompagnement, on est ainsi dans cette recherche, et dans cette recherche de forme, peut-être poétique, justement, pour pouvoir être dans cet accompagnement et permettre ça aussi. Mais on n'est sûr de rien.
Non. C'est pour ça qu'on fait, d'ailleurs. Si on savait, ça serait terrible.
Ce serait pas terrible.
On ferait plus rien.
Mmh. On saurait.
Mais quand tu exprimes justement que dans le rapport de soins, c'est justement, on ne sait pas, est-ce que ça... Enfin, toi-même ou d'autres personnes aussi, mais si vous en avez discuté ensemble, ça vous oblige justement à rester dans un endroit ou dans une posture où, comme vous ne savez pas, vous êtes obligé de rester dans cette...
Dans cette incertitude, oui, ouais. dans ce non-savoir,
ouais.
Qui permettrait peut-être plus de se rencontrer.
Ouais.
Là, je pense que la réalité, c'est...
Est-ce que le fait de rester dans cette posture-là, c'est un effort permanent? Est-ce que c'est insécurisant? Ou au contraire, c'est plutôt quelque chose de naturel? Si c'est trop intime, tu le dis, hein, je ne sais pas.
Oui, non, après, c'est aussi des respects de liberté et qu'effectivement de pas savoir c'est justement important de pas savoir pour l'autre mais je pense pour soi aussi et on est vraiment à côté je retrouve cette image de gouffre c'est une alliance mais effectivement faut pas être ensemble non plus. Enfin, on est à côté du gouffre parfois et c'est une prudence, il me semble.
En somme, on se met en danger.
Oui, on est parfois en danger.
Ouais. Et du coup, ça me fait penser à ce mot apprivoiser. Pour moi, c'est un peu apprivoiser l'inconfort de me dire je sais pas. Et du coup, alors que je suis dans cette posture d'accompagnement. Et donc apprivoiser ça encore et encore, c'est pas vraiment un effort comme tu posais la question, mais c'est plus accepter à chaque fois de retraverser ça. Et donc il y a une histoire un peu, en tout cas pour moi, de confiance aussi à quelque chose qui dépasse quoi, qui est plus grand. Tu parlais de ça tout à l'heure. Voilà, il y a aussi cette histoire de confiance en...
C'est pas grave si tu sais pas tout.
Bah en fait non parce que de toute façon ça vient pas vraiment, ça va pas venir que de moi, bien, enfin ça vient de bien plus grand et puis ça vient de notre rencontre donc il y a ce moment de non, de vide quoi, de non savoir.
Ça peut être frustrant.
D'où peut jaillir quelque chose, pardon, excuse-moi, t'avais employé le mot à un moment, jaillir.
De pur jaillir.
Voilà. Ouais. Et du coup, c'est peut-être une raison. Pardon.
Ça peut être frustrant pour certaines personnes qui n'ont pas forcément appris à lâcher prise ou accepter la frustration, par contre. Enfin, donc c'est bien, c'est mal. Au contraire, c'est beaucoup plus sain d'accepter le je sais qu'on ne sait rien, quoi, mais ça dépend aussi de cette posture-là. Avec qui on peut l'adopter. Certaines personnes sont en recherche et,
ouais, c'est sûr.
Et ça fait du bien. Il y en a d'autres que ça va extraordinairement frustrer, voire mettre en colère, de ne pas avoir un messie en face qui a toutes les réponses sur sa calculette.
Du coup, ça veut dire oser dire non, je ne suis pas le messie.
Oui, c'est vrai.
Enfin, en tout cas,
vrai,
pour moi, c'est sûr.
Et puis la position pour la personne en face de moi, il y a eu des poètes nazis. Il y a eu des poètes nazis à l'époque. Qui voit l'extermination des juifs, elle existe aussi à ce niveau-là. Il y a aussi le rapport, par exemple, d'une poésie occulte du début du siècle sur les sortilèges du diable, qui existe aussi. Ce rapport-là, qu'on considère comme un obscurantisme. Mais quelque part, ou alors, par exemple, il y a par exemple, l'alliance magique également, une poésie qui a un rapport introspectif. Tout un fonctionnement magique d'une sorte de réalité alors qui est un rapport objectif à soi mais qui est un rapport magique et qui se révèle comme étant une réalité de soi donc quelque part aussi donc de monde parallèle de monde apparemment imagique le délire peut avoir une réalité objective. Donc ces personnages que l'on crée en littérature ont une réalité objective, vivent d'eux-mêmes, nous dirigent, finalement ça revient au même rapport, tout ça.
Nous on est très guidé par une philosophie d'Edmond Husserl qui ne cesse de dire mais arrêtons avec cette distinction entre le réel et l'imaginaire.
Bien entendu.
Les choses, enfin c'est la même chose en fait. Et je trouve que c'est très important ça. Et là, pour le coup, on est vraiment dans notre culture imaginaire, le réel. Bah, est-ce qu'il y a vraiment une différence?
Par exemple, un des grands chercheurs, un grand chercheur au CNRS, sur un travail considérable à partir du Centre mondial de la magie, a écrit tous les talismans, les formules incantatoires, ça peut être considéré comme de la magie, comme de la poésie, ça aussi. Ce rapport-là fait partie de l'inconscient, ce conscient qu'on a tous. On a tous la totalité de la connaissance. Donc en soi, il suffit d'aller en soi pour y puiser. Alors, quelque part, également, est-ce quelque chose de nouveau sur la Terre quelque part, peut-être que tout a déjà été fait, peut-être que l'on puise dans certaines sources, certains puits de l'existant qui sont donnés goutte à goutte. Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de présence supérieure, une sorte donc, mais c'est le rapport, c'est comme dans un jardin, comme ça, mais dans la psychose, on est visité par des entités pas toujours très agréables à rencontrer. Donc c'est ça le problème.
Ce que j'entends, c'est cet appel à ouvrir le champ au maximum des possibles.
Oui, c'est ça le soin, c'est-à-dire arriver à voir côté ça des choses.
Puis la vie, à s'ouvrir, à comprendre soi-même que les choses sont beaucoup plus vastes et notamment que la personne d'en face elle peut avoir une façon d'être au monde qu'on a du mal à imaginer.
En fait, on peut être poète et conditionné, on peut être poète et informateur soi-même. On peut être poète et libéré, tout dépend, mais on est poète à travers tous les conditionnements. C'est une question, je dirais même de thème astrologique, parce que les choses se disent dans un thème, il y a des rapports de poésie dans les rapports planétaires que l'on voit dans un schéma astrologique. Bon, c'est pas tout bon. Mais en tout cas, moi j'ai connu des gens qui étaient poètes à travers un conditionnement. Parental ou quelque part une autorité parentale ou des fois des parents qui sont de vrais psychotiques qui enferment leurs propres enfants à l'hôpital. C'est pas forcément à sens unique les choses. Hein. La société peut être malade, vous savez, il y a la chance de bouc émissaire, mais en tout cas, quand on est poète, on l'est à travers tous les rapports. Mm. Comment vous dire, moi j'ai connu un jeune garçon qui était poète et puis il s'est tiré dans la tête à 20 ans, mais il faisait de la musique, c'était un poète. Et puis il y a trop d'opposition, trop de ça, les parents ne comprenaient rien à rien. Alors la question c'est très malheureux, mais voilà. Alors voilà, c'est quand même malheureux qu'à 20 ans une personne se soit tiré dans la tête. C'était quelqu'un de très, très doué au niveau musical. Les parents ne s'en étaient jamais rendus compte. Ils pensaient que c'était un enfant qui n'avait aucun intérêt. Et lui, donc, dans un rapport secret, faisait sa poésie. Moi, il m'a fait écouter les cassettes assez géniales. Mais les parents pensaient que c'était un imbécile qui n'avait aucun intérêt. Et donc, il a fini par un jour prendre une balle. Paf, il y a 20 ans, il s'est tué. Dommage. C'était très. Ben, des parcours accidentés, il y en a un tas de poètes qui. Ou alors, également, le rapport au génie, des gens qui ont le génie, qui meurent à 23 ans, qui ont fait une, deux, trois œuvres fulgurantes, et qui meurent. Pourquoi tout ça? Est-ce qu'il y a un sens à tout ça? Il y a un sens à tout ça. Alors, quel est ce sens? Il y a des gens, donc. Oui, donc, voilà. Mais c'est vrai que. Voilà.
La soirée avance. C'est tellement bien qu'on préparait toute la nuit, mais les meilleures choses ont une fin, donc tranquillement, on peut se.
Moi, je me tourne un peu vers ceux qui n'ont peut-être pas pris la parole. Est-ce que ceux-là, qui se reconnaîtront, ont, je ne sais pas, quelque chose à dire, à ajouter ou...
Ceux qui ont prévenu qu'ils ne parlaient pas,
il n'y a aucune question, c'est juste vraiment pour voir s'il n'y a pas des silencieux qui bouillonnent en fait intérieurement et qui auraient envie de déposer quelque chose dans le groupe ou de... Voilà.
Non, simplement ce que je peux dire, c'est que je trouve fort malheureusement que ce qu'on se dit là, enfin... qui expérimentait là, et je pense qu'on est tous en quête de la même chose, plus ou moins, c'est très très marginal dans notre monde. Et à l'inverse, on aura beau se dire, bon, comment sonner par la poésie, etc., où il y a quand même beaucoup de limites à pousser, beaucoup de protocoles, de dogmes, plus encore depuis quelques mois, depuis qu'on vit tout ça, avec des injonctions très strictes, non discutables, voilà, absolues. Et je ne sais pas si on peut introduire réellement la poésie dans un hôpital, j'en sais rien, si on peut introduire la poésie dans une institution. Et ce que je trouve dommage, c'est que celui qui cherche justement des médecines poétiques, il faut vraiment qu'il cherche beaucoup, quoi. Qu'il cherche, et seul, je trouve. Et je pense qu'il y aurait quelque chose à faire là-dessus, puisqu'on garde une forme de liberté quand même, et de libre arbitre, il y aurait quelque chose à faire pour, au niveau des liens, je ne sais pas, comment celui qui cherche ça le trouve, comment il fait. Parce que souvent, les médecins, moi, en ce moment, j'arrête pas de rencontrer, par force des choses, par mes parents, des médecins, mais extrêmement décevants. Enfin, c'est incroyable. Ils s'impliquent plus, ils s'impliquent plus intérieurement. Ils s'en foutent, quoi. Ils font ce qu'ils ont à faire. Il faut que ce soit court, rapide, qu'il n'y ait pas de soucis derrière. voilà, et c'est tout. je trouve, voilà, donc c'est peut-être un espace très juste, mais c'est un espace trop rare. Moi, mon inquiétude, elle serait là. Elle serait pas par rapport à chacun. Entre nous, on sait ce qu'il faut faire vibrer, bouger. On va s'introspecter. C'est pas le problème. Le problème, c'est après, c'est dehors.
C'est ça. Toi, tu parles vraiment de cette création d'un réseau en fait connecté. À cette même source.
Ouais.
Et alors après, moi j'avoue, il y a une phrase que j'aime bien qui m'avait marquée, c'était injecte dans le monde ce que tu as envie d'y trouver. Et tu vois, dans le sens où, enfin, moi aussi j'en ai vu des médecins désagréables et très fermés, mais à un moment donné où la posture de l'un va révéler peut-être une autre posture de l'autre, si tu vois, il y a un petit changement. Par exemple, si moi j'arrive devant un médecin et que j'ai cette posture poétique quelque part devant lui, peut-être que, même si c'est quelqu'un qui est très protocolaire, peut-être que quelque chose va émerger d'inattendu, tu vois. Je sais pas, non, mais c'est vraiment juste une piste, tu vois, parce que j'entends bien ta solitude, en fait, tu vois, et ta sensation qu'effectivement, c'est très en marge, que ça manque ça manque un peu de cette vibration-là de dehors, quoi. Puis après, je pense que tu vois, la source en soi, elle peut être potentiellement partout, et notamment pas que dans les liens humains, en fait, tu vois. C'est-à-dire, il y a aussi les livres, il y a aussi l'art, il y a aussi, tu vois, tout ça qui va venir te frapper, il y a aussi les plantes, il y a aussi tout ça. Mais voilà, après, j'entends bien, enfin, ce que tu dis, je pense qu'on
sait... Donc, il y a le vivant, il y a le monde en absolu, et là, on peut explorer la poésie, l'univers même, et puis il y a... mine de rien, la société et comment on est gouverné, quoi. Enfin, la politique, il y a nos dirigeants, il y a ça, c'est le réel aussi. Enfin, je sais pas si on peut redessiner la frontière entre imaginaire et réel, mais pour le coup, là, il y a quelque chose d'absolument monolithique, indiscutable, tout puissant par rapport à, en l'occurrence, à ce qu'on veut ou pas. Voilà, et c'est vrai que du coup, ça se joue entre ces deux zones-là. Mais je trouve ça pas forcément évident, et faut beaucoup de volonté et de courage quand même pour tenir ses convictions et se dire si je continue dans la poésie. Et c'est pas simple, je trouve ça très difficile.
Il y a aussi quelque chose qui est pénible, mais c'est la pluralité des hommes, quoi. C'est-à-dire qu'on est tous différents. Et que la voie qu'on emprunte là, il faut aussi avoir conscience, c'est notre voie à nous, et il y a plein d'autres chemins qui nous paraissent débiles. C'est pour ça que moi, qu'on soit tout tranquille là, entre nous, moi j'ai aucun besoin de prendre mon porte-voix et d'aller... il y a un chemin qui se trace, une façon d'être qui me convient, je pense qu'il y a quelque chose de commun. Et après, moi, j'aimerais pas ressembler à ce dont tu parles. C'est-à-dire que j'ai aucun... Enfin, l'échec, ce serait de dire tout le monde doit vivre comme moi, j'ai envie de vivre. Et après...
c'est pas ça. C'est quand je vois, il y a de la misère. Enfin, médicalement, Je suis désolée, mais je trouve ça catastrophique. Je trouve les médecins abominables. Hein. Enfin,
oui, mais après, il y a plein de belles choses aussi, tu vois.
Je trouve qu'on vit un échec total de ce point de vue-là. Je ne sais pas comment ils sont formés ou s'ils ont le désir de quoi que ce soit s'impliquer, mais c'est... voilà. Et donc,
je pense
qu'il
y a plein
faire...
de médecins tranquilles. Enfin, pour parler des médecins, parce qu'on en parle, je pense que tu as plein de médecins tranquilles qui font des belles choses, tu vois, mais qui sont tranquilles et qui... dont on ne parle pas et...
Je pense qu'en fait, il y en a beaucoup qui piquent tranquillement en ce moment. Quoi. Donc, vraiment, parce que,
oui, bon.
Toi, non, mais, je sais de quoi il parle. Moi,
oui, mais je sais aussi de quoi il parle. Mais c'est assez important de dire qu'il y a aussi.
On est en face, en vrai, en fait, de gens qui sont complètement fous, quand même, il faut le dire. Oui, des gens de ton métier, excuse-moi, mon père en est parti aussi. Et qui sont en train de piquer n'importe qui, sans aucun souci. On leur apporte, nous, des solutions. Il y en a partout maintenant. Des solutions, mais leur dire, vous faites vous inquiéter de ce que ça implique dans votre responsabilité, ce que vous faites. Oh ben non, bon, non
je suis d'accord, mais juste ce que je veux dire, c'est que ce dont tu parles est un rayon du monde, mais qui a toujours 1000 rayons, tu vois.
Ah oui, je suis d'accord.
C'est-à-dire que, et après, c'est, le problème, c'est la visée, c'est-à-dire que si tu passes ton temps à voir des médecins comme ça, mais tu te crées un monde comme ça. Mais si tu passes ton temps à voir le petit médecin tranquille qui a des moments d'extase avec sa petite patiente et son patient, tu crées un monde comme ça, tu vois. Et je pense, malheureusement, j'aime beaucoup la philosophe Hannah Arendt qui dit ça, c'est que la nature humaine, ça n'existe pas. Il n'y a pas des bons, des mauvais, c'est des conneries, tout ça. Il n'y a que des gens différents. Mm.
Oui,
et je trouve que ça permet aussi de retrouver une liberté.
Elle a terminé un juif, ça, Hannah Arendt.
Comment ?
Elle a terminé un juif.
Non,
il y a certaines
personnes. Elle s'est échappée, elle s'est enfuie.
Elle s'est enfuie, autrement pour elle.
Pas mort,
certaines compositions. Donc, et il y a un rapport également incantatoire à la politique actuelle. Il y a un rapport incantatoire, on se demande des fois qui sont ces gens qui nous parlent sur une autorité présumée comme ça, et qui ont tous les pouvoirs. Donc, la question se pose dans la poésie, est-ce qu'il faut vraiment les prendre très au sérieux ?
C'est presque un mot de la fin.
C'est pas mal, c'est pas mal.
Mais
tu vois, faut les prendre au sérieux. Presque comme une relation... amoureuse, quoi, ou une relation amicale, c'est-à-dire, bah, t'en es, c'est 10, 20, 30, il n'y en a aucun qui est là, mais vraiment, enfin...
Tu parles de vécu,
non, mais, je veux dire, quand tu... Parce que oui, je pense que tout le monde ici, dans le fond, voit très bien de quoi tu veux parler, du mur, on s'est tous pris un mur à un moment donné, je pense, dans notre parcours de soins, quoi. Mais voilà, tant que c'est pas... contraint, comme par exemple dans les internements où là t'as vraiment pas le choix de ce qui se passe, mais tant qu'il y a cette liberté, on va dire, de choix, d'essayer, tu vois, moi j'avoue, moi j'aime bien quand je rencontre un nouveau spécialiste ou un nouveau, je sais que quasiment il y a, je sais pas, à peu près 19 fois sur 20 ça va pas passer, tu vois, je le sais, mais j'ai toujours la petite excitation de est-ce qu'on va arriver ou pas à créer un lieu de rencontre, qui je vais avoir en face de moi et tout. Bah, après, bon, bah, ça me déçoit, je change, tu vois, le truc, c'est... Je pense qu'il y a ça aussi, c'est de remettre aussi de la souplesse, tu vois, là-dedans, et de reprendre une position de liberté, tu vois, et de te dire que bah, c'est aussi des choix que tu fais, puis tâtonner, c'est normal, tu vois, trouver... voilà, mais bon, ouais, c'est pas...
Pour parler du mur, hein, le plaster Shenzhen
de Pitarma
est arrivé d'Inde en Chine. Le créateur du Zen s'est mis devant un mur, il est resté 7 ans devant un mur, immobile, comme ça, sans rien voir. Hein. Ça, apparemment, du moins, et à la fin, quand il a fini, il y avait le Zen. Quoi. Il était institué au niveau national chinois.
C'est ça. On a envie de faire l'expérience. Je vais lui mettre. Est-ce que, dans la série des mots de la fin, est-ce que. Des fois, on fait des tours du mot de la fin, mais on va pas faire parce que on va pas faire ce soir. Mais si le mot de la fin c'est le silence, c'est très bien.
Je m'attendais à ce que Bernadette sorte une autre citation.
Quoi ?
Citation sur Bernadette.
Je m'attendais à ce que tu.
Ah non, non, tu peux pas faire citation. Tu peux faire citation.
C'est juste. Je me demande si ça ne pourrait pas être intéressant. Il y a une conférence, c'est en novembre, je crois, sur la certitude, sur l'incertitude. Pardon. S'il y en a que ça intéresse, par contre, malheureusement, je crois que c'est par Zoom. C'est une psychanalyste argentine, je crois que c'est en hommage à elle. Je sais plus exactement ce qu'il y a dedans, mais si ça vous intéresse, je peux vous envoyer le lien. c'est sur toutes ces questions en fait de comment on se positionne par rapport à... Voilà. Je vais vous trouver le truc.
J'avais dédié ma thèse d'anthropologie à Alain C. À l'incertitude. Jamais personne ne m'a demandé qui était. Parce qu'en fait, il y avait un professeur de psychiatrie qui avait dédié, dans sa thèse, il avait dédié sa thèse à Alice T.
Ah voilà.
Alice T.
Vous allez trouver sur internet si ça vous intéresse, c'est pas facile de le donner. Donc c'est la journée scientifique 2021. Donc c'est Jeannine Puget, faire avec l'incertitude, investir le présent du sujet. Voilà, et puis vous trouverez le programme.
Jeannine Puget.
Alors, faut taper, je pense, journée scientifique Absilien. Absilien, APSYLIEN. Je ne sais pas si ça va être bien ou pas. Hein. Je pressens que ça va pas. Journée scientifique 2021 Absilien. Donc, Jeannine Puget, faire avec l'incertitude, investir le présent du sujet. Et je pense qu'il y aura le programme dessus. Sur la question du traumatisme.
Bon, bah, écoutez, merci pour la présence.
Merci.
Franchement, c'était une très belle soirée.
C'est
vraiment, je suis super content.
C'était une riche soirée.
Merci à
vous. Merci à vous.